La cause kurde, la question palestinienne, avons-nous besoin de causes lointaines? Que veut dire faire monde? Les mots comme porte d'entrée dans l'histoire, dans les cultures, être au théâtre pour se déplacer.
Pascal Paradou.
Aujourd'hui encore, nous sommes à Limoges pour le festival Zébrure d'automne, nouveau nom des francophonies en Limousin, au lendemain d'une soirée de première avec Jour tranquille à Jérusalem de Mohamed Kassimi. Bonjour.
Bonjour.
2 heures et on comprend tout ou presque au conflit israélo-palestinien sans être du tout pédago. Quelle est la force du théâtre? C'est l'incarnation?
C'est l'incarnation, et puis c'est surtout hier, à la fin du spectacle, une dame m'a dit « Monsieur, vous m'avez sauvé presque de 30 ans d'empathie, et là je suis passé de la compassion à la compréhension ». Et je pense que c'est ça qui est fondamental dans notre travail, c'est de sortir du cliché, sortir des stéréotypes, et rentrer dans la vérité, dans la chair des gens qui vivent sur place.
La compassion étant celle pour la cause palestinienne, puisqu'il s'agit de cela dans votre spectacle, mais on y reviendra. Est-ce qu'il ne s'agit pas dans le théâtre de dire, dans votre cas, la violence avec une forme de douceur?
Avec une forme de douceur, et puis surtout, c'est ce à quoi je tiens beaucoup, c'est de l'humour. Le spectacle se termine avec cette phrase du grand rabbi Nachman de Breslav qui disait « Il est interdit de désespérer ». Et je pense que c'est ma ligne de conduite de dire que le théâtre n'est pas fait pour désespérer le public du monde. Le théâtre n'est pas fait pour noircir le monde actuel qui est déjà assez noir en lui-même, mais pour ouvrir une brèche, de dire là où il y a plus d'espoir, il y a quand même quelque chose qui reste possible, notamment par rapport à cette région du monde qui est désespérante depuis 60 ans.
Le monde s'invite aussi dans « Pourvu qu'il pleuve », le nouveau texte de Sonia Aristic, créé ici à Limoges. Bonjour Sonia Aristic.
Bonjour.
Puis-je raconter cette pièce en disant qu'elle confronte finalement le quotidien le plus anodin à la question du terrorisme, à la menace terroriste?
Alors c'est une porte d'entrée. Moi, je pense que c'est. Elle raconte vraiment la confrontation de l'anodin, du quotidien, de l'intime, de l'infiniment petit, de la petite histoire avec l'histoire avec un grand H, avec le monde qui continue à tourner autour de nous et de nos petites histoires. Pas seulement avec la question du terrorisme, même si la question du terrorisme plane sur cette pièce, mais
oui, ça se passe le 13 novembre 2015, avant le Bataclan. Enfin, c'est possiblement ce jour-là.
Possiblement. Ce n'est jamais nommé en tant que tel, mais je pense que vu qu'on est à peu de distance temporelle de 2015, pour nous tous, on a ça en tête. Il se trouve que la pièce a des origines bien avant. C'est là la réalité a rattrapé la fiction. Quand j'écrivais quelque chose de complètement fictionnel. J'écrivais un attentat fictionnel et puis il y a eu des attentats réels qui sont arrivés.
Alors je ne sais pas si vous ne voulez pas désespérer le monde et les spectateurs, mais en tout cas, pourvu qu'il pleuve est le titre de la pièce et vous êtes exaucé ici à Limoges. Jusqu'à
oui.
La pluie, le tonnerre, tout ce qu'il faut.
Je vais arrêter de donner des titres météorologiques à mes œuvres parce que apparemment ça marche, ça se passe.
La force du théâtre. Alors avant de rentrer dans la logique, la mécanique et l'intention de vos pièces à l'un et à l'autre, est-ce que l'idée de francophonie, puisque nous sommes dans un festival francophone, fait sens pour vous, Mohamed Kassimi?
Moi, c'est un mot qui m'a toujours hérissé le poil. J'ai toujours dit, je ne comprenais pas qu'il y ait en matière de littérature et de théâtre deux classes. Voilà, la première classe et la seconde classe qui même a disparu dans le métro. Voilà. Et j'ai toujours pensé que la francophonie était à la littérature et au théâtre ce que le 9-3 est à Paris. Donc on a une classe intramuros et l'autre, c'est urbi et torbi. Donc je ne comprends pas cette hiérarchie absurde et je toujours conçu la francophonie. Moi, j'écris tout court. Je suis
en français ou en arabe.
Français ou en arabe.
Mais quand c'est en
donc,
français, c'est
pas
en
besoin.
Français.
Voilà, je n'ai pas besoin d'être catalogué dans cette catégorie que je trouve infamante.
Pourtant, c'est un festival francophone, même si le mot est un tout petit peu gommé
voilà,
d'ailleurs
Hassan,
par Hassan Kouyaté.
Voilà, Hassan l'a effacé et c'est extraordinaire.
Sonia Ristik, sur ce point.
Oui, alors encore plus, moi ma francophonie est une francophonie vraiment d'histoire familiale, puisque la Yougoslavie n'a rien de francophone historiquement.
Vous êtes née à Belgrade.
Je suis née à Belgrade, mais il se trouve que ma mère était diplomate avant la guerre et qu'elle a été beaucoup en poste en Afrique subsaharienne et que ma francophonie vient du fait que j'ai fréquenté des établissements scolaires français, enfant, en suivant ma mère dans ses postes. Et j'ai été la première surprise que je me retrouve dans cette catégorie-là. En France, j'ai l'impression qu'on a besoin d'ouvrir des cases. On me trouvait pas suffisamment balkanique, j'aimais pas assez les fanfares et Emir Kusturica pour me mettre dans cette case-là. Donc on m'a mis dans cette case francophone. Et quelque part, je partage tout à fait ce que dit Mohamed sur... je trouve que cette espèce de sous-catégorie de littérature de deuxième classe et assez infamante, mais en même temps, dans ce festival-là précisément, où je viens depuis presque 15 ans, j'ai rencontré des tas de plumes de gens venant de partout qui écrivent en français, qui ont été des vraies rencontres artistiques et humaines fortes.
Oui, et qui trimballent quand même des univers, des cultures, des références et parfois l'émergence d'autres langues dans ce français qui s'écrit et se joue. Deux auteurs d'origine étrangère dans un festival francophone et une musique aux accents caribéens, le groupe Del Grèce, programmé ce vendredi ici à Limoges, vivre sur la route. Le groupe Del Grèce sur RFI à l'occasion du festival Zébrure d'automne et de son nouvel album Mojodi. Nous sommes à la caserne Marceau qui est le nouveau lieu de ce festival de Limoges, mais les spectacles ont lieu un petit peu partout dans la ville et il faut aller à l'extérieur dans une zone commerciale au centre culturel Jean Moulin pour voir votre spectacle Mohamed Kassimi, Jour tranquille à Jérusalem. C'est une antiphrase ce titre.
C'est une antiphrase et puis c'est toute une aventure parce que en fait le spectacle revient sur l'aventure qui a été initiée par Adèle Hakim en 2015 et Adèle voulait comme ça, c'était une sorte de chant de cygne, faire un spectacle avec le Théâtre National Palestinien et un spectacle qui évoquerait les trajectoires de deux familles, une juive et l'autre palestinienne, en commençant par l'histoire, le point de départ qu'est la Shoah. Et le fait de débarquer comme ça à Jérusalem, de présenter cette hypothèse de travail et ce scénario à des comédiens palestiniens a suscité à l'époque une levée de boucliers extraordinaire et nous avons ramé pendant pratiquement un an à contre-courant pour réaliser cette pièce impossible sur place.
Alors, Adèle Hakim est décédée depuis, mais à l'époque, vous étiez avec lui comme dramaturge dans ce que vous appelez une aventure. Et en fait, ce texte est issu de cette expérience sur place, des carnets d'Adèle Hakim et de votre regard porté sur cette histoire. Et en fait, la pièce raconte même le projet.
Nous sommes heureux et fiers d'accueillir dans notre théâtre notre ami qui est un grand metteur en scène. Il est là pour monter sa pièce sur l'histoire de la Palestine et de, comment dire, d'Israël. C'est un projet magnifique, un projet que je suis heureux d'accueillir dans notre théâtre. Tous les membres du conseil d'administration sont là, c'est un peu notre comité des sages. Ils ont tous lu et relu ta pièce, ils l'ont annotée, et tous sont tenus à te rencontrer ce soir pour parler de la pièce avec toi. Je leur laisse la parole.
On vous aime beaucoup.
Ah oui,
pour vous aimer, on vous aime.
Ça, c'est vrai.
Vous pouvez le croire.
On n'a jamais dit quelqu'un comment vous aime vous.
Merci. Je suis très touché par votre accueil. Je suis très, très ému. J'ai toujours rêvé de travailler ici, de faire quelque chose ici. Je pense que c'est ici que tout se passe. Chaque fois que je viens à Jérusalem, j'ai l'impression de descendre dans le cratère d'un volcan, d'être plongé au cœur d'une bombe atomique. Et je pense que c'est ici qu'il faut faire du théâtre.
Jour tranquille à Jérusalem. Alors, votre spectacle, Mohamed Kassimi, raconte donc cette histoire d'écriture et cette aventure. Et on l'entend, le simple fait de prononcer le mot de Israël est compliqué pour un Palestinien. Alors, quand il s'agit de prononcer le mot Shoah, on n'en parle même pas.
Bah, c'est l'horreur absolue. Mais l'idée, c'était vraiment de partir, de convaincre les comédiens palestiniens de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre le drame des Palestiniens si on n'a pas intégré et compris réellement la tragédie des Juifs durant la Seconde Guerre. Et le fait d'avoir commis cet acte, c'est-à-dire de demander à des comédiens de sortir d'eux-mêmes et d'aller dans la peau de l'autre,
d'accepter l'autre.
D'accepter l'autre. Et en même temps, ça rend compte de la complexité de cette situation de deux communautés si proches, si intimement reliées par l'histoire, la langue et la culture, et qui sont dans un rapport diamétralement opposé. Comment on peut être à la fois si proche, si différent et si adversaire.
Alors, la pièce, il faut le dire, a donc été écrite après 3-4 mois quand même de mésaventures, de débats, de faux départs, de crises, etc. Ça sera des roses et du jasmin, signé Adèle Hakim. Elle a été jouée en juin 2015 à Jérusalem et ce fut un triomphe.
Ce fut un triomphe. Elle a été très très bien accueillie, contrairement à tous les pronostics et à l'opposition des politiques palestiniens qui, c'est vrai, je comprends très très bien qu'ils disent philosophiquement le drame de la Shoah, c'est une histoire euro-européenne qui ne nous concerne pas. Mais il y a eu tout l'acharnement et la combativité des comédiens de la troupe du Théâtre National Palestinien pour imposer cette pièce.
Oui, parce qu'on voit que les comédiens doivent faire de la résistance. Alors, de la résistance face à l'occupation israélienne, les soldats sont à la porte du théâtre à peu près quotidiennement et peuvent détruire des éléments du théâtre, mais aussi faire de la résistance par rapport au cadre palestinien. Le conseil d'administration dit des choses épouvantables. Interdit, par exemple, que le drapeau israélien puisse être présenté sur scène, parce qu'il faut nier l'existence d'Israël sur la scène.
C'est-à-dire que, oui, le théâtre est pour eux le dernier espace de souveraineté dont ils disposent. Et le fait de leur proposer cette incursion violente ou cette image de l'occupation dans ce dernier bastion, c'est une sorte, j'inverse un peu les choses, c'est une sorte de Masada dont ils disposent et qui était à l'époque menacé de saisie par la mairie de Jérusalem. Donc c'est dire un peu la violence que je comprends, ressentie par les membres du conseil d'administration, mais également tout l'acharnement des comédiens palestiniens à imposer cette pièce qui a rencontré un vrai triomphe après en France, alors que c'est un sujet très délicat, très clivant. On ne peut pas parler de ce conflit sans qu'il y ait deux camps diamétralement opposés. Et l'idée en écrivant cette pièce, c'est de dire que tout n'est pas blanc, que tout n'est pas noir, et que c'est l'humain qui est en cause dans ce conflit-là.
Pour autant, un Israélien verrait cette pièce, il peut un peu grincer des dents, parce que c'est un peu à charge quand même sur la politique israélienne. Les paroles entendues sont essentiellement celles des paroles de Palestiniens. Est-ce que vous avez l'impression, Mohamed Kassimi, d'être un peu militant ?
Pas du tout, parce que j'ai essayé d'être, je ne peux pas dire, il n'y a pas d'objectivité dans cette histoire-là, mais j'ai essayé à la fois de comprendre les uns et les autres, et de parler, non pas d'une opposition politique, mais d'une fragilité, d'une sorte de fêlure qui est à l'intérieur de ces êtres-là, pris dans ce conflit complètement irrationnel et kafkaïen. Et c'est vrai que certains Palestiniens ont considéré la pièce, la mienne ou mes chroniques, parce que comme des chroniques à charge contre eux, de parler de leur schizophrénie, de leur paranoïa, de leur peur du monde et de la réalité. Et c'est la première fois qu'on déballe ces choses, de dire quel est ce refus de la réalité chez les Palestiniens.
Oui, parce que comment ne pas désespérer finalement ? Peut-être en revenir à l'histoire et à l'histoire des deux côtés, parce que l'histoire est niée des deux côtés, du côté d'Israël comme
oui,
du côté palestinien.
Mais c'est indifférent. Les Israéliens utilisent un très très joli concept qui s'appelle un différent fictionnel. C'est-à-dire, on ne raconte pas la même histoire. Et en même temps, quand on revient à l'histoire et on est désespéré par ce qui se passe, on se souvient, Botero, qui fut un très très grand historien de la région, a fait son compte. Depuis l'invention de l'écriture à Sumer jusqu'à nos jours, la région a connu quelque chose comme 20 années de paix. Donc, quand on se projette dans cette éternité, en 5000 ans, on a connu, donc on se dit, c'est pas grave, la paix finira par venir un jour.
Donc il ne faut vraiment pas désespérer, parce que franchement, il y a quand même une force de témoignage, vous dites, c'est un peuple qui se noie, vous racontez comment 531 villages arabes ont été rasés, comment des enfants sont arrêtés, comment il est interdit pour des Palestiniens de passer à l'ouest, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément sur des plateaux de théâtre tous les jours.
Oui, il y a toute une partie de témoignages qui sont des témoignages vrais, issus du travail de deux associations israéliennes, Breaking the Silence et B'Tselem, et qui sont passés en vidéo, et qui sont des témoignages vrais de soldats qui parlent des exactions de l'armée israélienne, et de Palestiniens qui, aussi interviewés par cette association, parlent de leur emprisonnement et de leur détention en Israël.
Donc ça donne de la gravité, et en même temps, vous le disiez, parfois c'est drôle, jour tranquille à Jérusalem, on y fume, on y boit des coups et on fait des blagues.
C'est drôle. À chaque fois qu'un étranger raconte l'histoire de la Palestine, on a l'impression qu'il se trompe, même si c'est la vérité.
Je pourrais avoir un peu d'eau ?
Allez, prenez ma bouteille. C'est de l'eau arabe.
Il y a de l'eau juive et de l'eau arabe.
Mais oui, l'eau juive s'appelle Éden et l'eau arabe Jéricho.
Nous, on ne boit jamais d'eau juive.
Et les juifs ne boivent jamais d'eau arabe.
Et il y a une différence entre l'eau juive et l'eau arabe ?
Absolument aucune.
Vite, vous connaissez la plus courte histoire juive ?
Non.
C'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe.
C'est très drôle, mais j'aimerais bien qu'on revienne à la pièce.
Alors, humour juif ou humour palestinien, Mohamed Kassimi ?
C'est les deux. C'est les deux par rapport à cette situation. Il y a un proverbe arabe qui dit « Plus le malheur est grand, plus il doit donner l'envie de rire ».
Alors il y a des moments vraiment magnifiques dans votre spectacle, notamment quand les comédiens jouent les personnages juifs, qu'ils réussissent justement à faire pénétrer l'autre en eux, l'autre en nous. Je vous cite, c'est ça le théâtre.
Ouais. C'est être hors de soi. Je pense que c'est ça qui est le miracle du théâtre.
Et pour le spectateur aussi.
Pour le spectateur aussi.
Ouais. Sonia Ristic, est-ce que le théâtre permet d'entendre l'autre en soi?
J'espère, et je pense que c'est aussi un peu comme les voyages, ça permet aussi d'être le plus soi. Je pense que ça nous, autant pour les comédiens que pour les spectateurs, ça nous oblige à se faire face et à se regarder.
Alors vous êtes, comme Mohamed Kassimi, à l'affiche de ce festival de Limoges avec votre nouveau texte, Pourvu qu'il pleuve, une salle de bar, des histoires de couples qui vont pas très bien, ils se séparent plus tôt, des histoires de cuisine entre les serveuses, entre les cuisiniers. C'est un texte quotidien avec des phrases du quotidien. Salut, je vais pas y arriver, je fais pas la gueule, je dors encore.
Oui, c'est vraiment il y a c'est du théâtre on va dire assez sans aucune comparaison assez tchékovien, c'est-à-dire de personnages qui se retrouvent suspendus à un moment de vie, qui traînent une certaine mélancolie sur laquelle ils n'arrivent pas à mettre le doigt, qui s'interrogent, et ensuite on a à l'intérieur de ce microcosme dans ce café, on a aussi des gens qui se confrontent à des questions très différentes. Il y a ces serveuses qui font ouverture fermeture et qui sont vraiment dans le rapport au travail et à l'aliénation de quand on fait des journées payées au noir de 18h. Il y a ce couple qui est socialement beaucoup plus aisé que les autres et qui peuvent se permettre de passer la journée dans un bar à discuter de leurs histoires d'amour. Et puis il y a la question de l'appartenance à une communauté, de ce qu'on doit à sa communauté d'origine qui se passe en cuisine.
Oui, mais c'est tchékovien, sans la grande demeure, sans les samovars, sans les...
Oui,
les,
c'est
les...
un petit Tchékov du pauvre.
C'est un petit Tchékov du pauvre. Il y a notamment un personnage que j'ai bien aimé, qui parle mal, ou du moins qui accroche sur les mots. Elle dit « rapitici » pour « rapetisser » ou « aliéniser » pour « aliéner ».
Alors c'est un personnage, ils ont pas de nom en fait, les personnages, je leur ai donné, alors en cuisine on a l'extra, le second, le couple on a la femme, l'homme, et puis les trois serveuses s'appellent la blonde, la petite et l'étrangère, parce que je voulais pas non plus les, je me disais ça peut être joué par n'importe qui, n'importe quelle origine, on sait pas en quoi elle est étrangère, mais on dans sa langue on se rend compte que elle se réapproprie le français d'une à sa
elle,
manière.
Oui, elle le réinvente aussi, oui, oui. Parce qu'après tout, pourquoi ne pas dire aliéniser ? Ce serait possible. Pourquoi ne pas ? Alors, on est donc dans ce restaurant, qui est un lieu magnifique pour l'observation du monde, hein, parce que contrairement aux maisons de Tchékov, il y a beaucoup plus d'allers-retours et de mouvements dans ce lieu. Et il y a donc un personnage qui est l'extra, qui est kurde, et du coup la question kurde s'impose dans la pièce. Alors c'est beaucoup plus anecdotique, enfin c'est un des éléments de la pièce, oui. Contrairement à Mohamed Kassimi où vraiment la question palestinienne est interne au projet. Là on est un peu à côté. Pourquoi la question kurde, Sonia Ristic?
Alors les deux personnages en cuisine sont kurdes justement. Il y a le plus âgé qui est probablement arrivé jeune adulte, donc il y a encore un lien très très fort avec la communauté d'origine. Et puis il y a le plus jeune qui le dit, est né à Hambourg et qui se défait un petit peu avec les origines de ses parents. Pourquoi ? Parce que au début des années 2000, quand j'ai commencé à travailler sur cette pièce qui ensuite a dormi dans des tiroirs pendant presque 15 ans, c'était le moment où il y a eu les procès contre Öcalan
et le leader du PKK
et la condamnation à mort et les manifestations. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais serveuse dans un restaurant où se réunissaient la diaspora kurde et que j'ai un petit peu fait naître la pièce de cette expérience-là aussi, de l'expérience d'observation dans les cafés, de tout ce qui s'y passe, de mes propres interrogations à l'époque sur le fait que j'ai complètement raté ma vie parce que j'avais 30 ans et je travaillais dans les restaurants et que j'avais pas une maison, un crédit, un mari, de la marmaille et une voiture, et aussi ce que je découvrais du monde là où je travaillais.
Mais vous étiez la blonde ou l'étrangère ?
J'étais un peu des trois forcément, et j'étais un peu des sept, je veux dire.
Des sept personnages. Extrait de Pourvu qu'il pleuve.
Ça n'a pas l'air tranquille d'être kurde en Turquie. Et le PKK.
C'est pas tranquille d'être kurde en France non plus. Ni en Allemagne, ni en Irak, ni au Liban. C'est pas tranquille d'être kurde nulle part. Alors justement, je voudrais qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse oublier que je suis kurde.
C'est drôle. À longueur de journée, je les écoute, les branchés intello, artistes militants, les qui refont le monde. Une fois sur deux, lorsque je pose la commande sur la table, j'entends Irak, OLP, Turquie, Liban, Hamas, Hezbollah, Syrie, Israël, PKK. Je ne me moque pas, je t'écoute et je trouve ça drôle. Notre besoin de cause lointaine est ton rejet de la tienne.
Ce n'est pas la cause que je rejette.
J'avais compris.
C'est tout ce qui va avec. Le « nous » non choisi. Juste parce que tes parents ou tes grands-parents sont nés quelque part. Le sous-entendu que tu vas forcément aimer cette bouffe-là. Écouter cette musique-là. Aller à des fêtes avec ces gens-là. Donner de l'argent à ce parti-là. Le fait que juste parce que tes parents ou tes grands-parents sont nés quelque part, tu es défini par ça. Comme une fatalité.
Le nous non choisi, j'aime beaucoup cette formule, la fatalité de la famille, de la communauté, de la tradition. J'ai le sentiment, en voyant le spectacle, que ce texte sonnieristique slalome toujours entre le on, voilà, le lieu commun du langage, le je, la première personne du singulier, et puis le nous. Ce oui. Nous qui est écrasant, dont on a besoin, et c'est écrasant aussi, je pense, à Jérusalem, Est et Ouest, hein, d'ailleurs. Mais ce nous qui peut être totalement écrasant et qui nous oblige à avoir une identité qui serait d'appartenir à un nous.
Oui, après, je pense qu'il y a, quand je disais tout à l'heure, il y a de moi dans les sept personnages, c'est aussi une manière détournée pour moi de réfléchir à mes propres origines et au fait que quand je suis venue en France en 91, au tout début de la guerre en ex-Yougoslavie, forcément, j'ai été plongée dans la diaspora yougo à Paris, qui m'a hérissée puisque c'était plutôt des gens qui étaient très proches des tendances nationalistes, notamment serbes, et que quelque part on m'a imposé un nous non choisi. Je ne me reconnaissais absolument pas et j'ai préféré aller à la rencontre des Argentins, des Algériens, des Français, des Congolais, etc., que je pouvais rencontrer à Paris. J'ai lutté pendant très longtemps contre ça, contre le fait que les gens de ma communauté d'origine disaient « Mais tu ne parles pas de nous, tu ne défends pas ce que nous sommes, non ?»
Est-ce que le « nous », pour reprendre la formule de Mohamed Kassimi, n'est pas justement une fiction ?
Moi, je pense
est-ce que l'un des points communs de vos deux spectacles, je veux pas tirer forcément des ficelles ou faire dire qu'ils se ressemblent alors qu'ils ne se ressemblent pas, mais est-ce que la question de l'identité ne taraude pas finalement ces deux projets et vos projets même d'écrivain?
Ah mais moi je pense que le nous notamment à un niveau national est toujours une fiction. C'est moi j'ai grandi dans la après ça peut être des mythes fondateurs très importants. Autant je me sens proche du mythe fondateur yougoslave ancré dans le non-alignement et dans ce pays qui renaît pour la troisième fois de la Seconde Guerre mondiale et autant tout le storytelling qui vient avec la montée des nationalismes dans les années 80 qui tout d'un coup décide de réécrire cette histoire-là et d'expliquer en quoi la Yougoslavie est une fabrication, une fiction, etc. Donc c'est toujours une fiction le nous d'un point de vue national, d'un point de vue culturel. C'est qui raconte cette histoire? De quel point de vue et pourquoi faire?
Ouais, mais Cassini.
Ben oui, c'est fondateur. C'est une fiction et une fiction qui est le moteur même de l'histoire des peuples. C'est-à-dire, pour revenir à ce qui se passe en Israël ou en Palestine, nous avons un conflit entre un peuple qui dit nous sommes l'incarnation de la tragédie humaine et notre tragédie est indépassable, elle est cosmique et universelle, c'est les Juifs. De l'autre, il y a un autre peuple qui arrive dans l'histoire qui dit non, mon drame est un drame cosmique et indépassable. Et l'affrontement entre ces deux mythologies qui n'arrivent pas, parce que l'un dit « mon malheur est plus fort que le tien », et le jour où les deux vont dire « je partage ton malheur », et ton malheur peut-être, il y aura un partage de malheur, on pourra sortir de cette ornière-là. Mais, on le voit aujourd'hui, c'est une psychanalyste juive qui dit, Israël a du mal à sortir de la Shoah, et il faut toujours une victime en face, pour que le pays continue à exister. Et la guerre, contrairement à ce qu'on croit en Europe, n'est pas le chaos ou la fin de l'humanité, mais dans ces régions du monde, c'est le début même de l'humanité et de l'histoire.
Mais il est interdit de désespérer, je vous ai bien écouté. Merci beaucoup à tous les deux, Sonia Ristik, pourvu qu'il pleuve dans la mise en scène de Astrid. Merci à voir ici au Festival Zébrure d'automne et à lire aux éditions Émile Lanceman. Merci Mohamed Kassimi, Jour tranquille à Jérusalem, mis en scène par Jean-Claude Fall. Le texte est édité chez Rive-Neuve et je crois qu'il y a des projets de faire jouer le spectacle à Jérusalem.
Ah, on l'espère.
Ça serait vivement, juste oui. Formidable. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, Véronique Durand, la réalisation de Guillaume Ploquin. À demain, toujours en direct de Limoges et des Zébrures d'automne.